Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie. Bienvenue sur Radio Aligre. Bonjour Isabelle, moi c'est Nathalie Perrin. Aujourd'hui on propose à nos auditeurs une émission autour de François Truffaut. Et moi je vais commencer par la dimension de l'enfance dans l'œuvre de François Truffaut. Et toi Isabelle, tu as choisi ?
Je continuerai Nathalie sur l'amour, l'amour fou, l'amour passionnel, l'amour maternel, l'amour des femmes et l'amour des femmes pour les hommes.
D'accord. Bon, et alors on commence avec François Truffaut, on a l'impression de connaître et qui en même temps son cinéma ne cesse de nous émerveiller et de passer le temps. Hein. Alors l'enfance chez François Truffaut. Ou la question de l'enfance chez François Truffaut. Il y a trois films finalement qui ressortent de sa filmographie et dans l'ordre. Alors il y a évidemment les 400 coups que tout le monde connaît, paru en 1900, sorti sur les écrans en 1959, noir et blanc. Le second film c'est L'enfant sauvage, 10 ans plus tard, 1969, toujours noir et blanc. Et un dernier film un peu moins connu qui pourtant a eu un beau succès en termes d'audience, c'est L'argent de poche de 1976, qui lui est un film en couleur. Je vais donc un petit peu vous, à travers des propos de François Truffaut que nous allons vous passer, vous parler de ces trois films. Alors, il y a une sensibilité à l'enfance à travers ces trois films, donc Les 400 coups, L'enfant sauvage et L'argent de poche, qui prennent pour personnages principaux des enfants. Et des enfants qui sont, d'une certaine manière, maltraités, en proie à l'étrangeté du monde adulte, à son injustice, à sa sévérité inutile, à sa cruauté même. Hein. Il y a pourtant effectivement des adultes qui peuvent faire preuve de compassion dans ces trois films et produire ainsi une autre image de l'adulte. Je pense notamment à l'enseignant à la fin du film L'argent de poche, qui porte une autre image du monde adulte en ayant de la compassion pour l'enfant maltraité. Autour de ces trois films, il y a donc trois manières de percevoir l'enfance à travers trois jeunes enfants ou préadolescents. Antoine Doinel pour Les 400 coups, Victor de l'Aveyron pour L'enfant sauvage et Julien Leclou pour La couleur de l'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette enfance chez François Truffaut, elle est confrontée à un monde adulte qui est le monde de l'examen, qui est le monde du contrôle, qui est le monde aussi de la séquestration. Mais malgré tout, et comme François Truffaut le disait, il ne voulait absolument pas faire de films pessimistes, il y a toujours quelque chose qui est sauvé dans ces films qui peuvent être quand même durs. Hein. C'est pas du tout non plus un cinéma optimiste, le cinéma de François Truffaut, ni pessimiste ni optimiste. Quelque chose, on y reviendra, de documentaire, hein, bien qu'il ait toujours été très critique sur la question du documentaire, puisque pour lui, le cinéma, c'est de l'invention, c'est de la création, c'est de la fiction. C'est pas de la copie de la réalité. Donc quelque chose est sauvé à la fin de ses films, et notamment, tout le monde a peut-être en tête le plan final d'Antoine Doinel qui court sur la plage qui est un plan justement qui ouvre la fin du film. Alors je vous propose de commencer par deux extraits coup sur coup, qui parlent des 400 coups. Alors tout d'abord la bande-annonce et puis à suivre les questions à Antoine Doinel. Et on revient vers vous après ces deux extraits.
Très bien qu'à l'école, on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, ben. Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça.
Et puis, je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis, pour rien, les petites affaires insignifiantes. Et puis, avec ma grand-mère aussi. Elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis, si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
Ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah,
dans la mesure où on travaille tous les deux, vous savez ce que c'est.
Oui, je suis père de famille, moi aussi. Faut reconnaître que parfois, on ne s'y retrouve pas très bien.
Mais si seulement il avait voulu se confier à nous.
Pourquoi as-tu rapporté la machine?
Oh, bah parce que... comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... Je sais pas, je l'ai rapporté... Je sais pas pourquoi, comme ça.
Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère.
Elle m'avait invitée, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin. Elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui fauché. Des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors... ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je ne les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé, parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère?
Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis, ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours. Et puis pour rien, les petites affaires insignifiantes. Alors, aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu quand elle était... Elle m'avait eu fille-mère, quoi. Et puis, avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère.
As-tu déjà couché avec une fille?
Non, jamais. Mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors ils m'avaient dit, si t'as vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors moi, j'y suis allée et puis j'ai demandé à des filles. Et je me suis fait vachement engueuler. Alors j'ai eu la trouille et puis je suis partie. Puis je suis revenue encore plusieurs fois. Puis alors, comme j'attendais dans la rue, il y a un type qui m'a remarqué. Il a dit, qu'est-ce que tu fous là? C'était un Nord-Africain. Ah ben alors, je lui ai expliqué. Alors, il m'a dit, il connaissait sans doute les filles, parce qu'il m'a dit, moi, j'en connais une qui va... une jeune, quoi, qui va avec les jeunes gens, tout ça. Alors, il m'a emmené à l'hôtel où elle était. Et puis, justement, ce jour-là, il n'y était pas. Alors, on a attendu une heure, deux heures. Puis, comme elle ne venait pas, moi, je me suis tirée.
Voilà, vous écoutiez à l'instant deux extraits. Le premier extrait, c'était la bande-annonce des 400 coups. Et le deuxième extrait, c'était les questions à Antoine Doinel, où c'est Jean-Pierre Léaud qui répond à ces questions absolument magnifiques. Il y a des petites redondances, mais vous aurez compris que c'était pour préciser la bande-annonce qui était destinée simplement à amener le public vers ce film. Voilà, les questions à Antoine Doinel, absolument magnifiques, les réponses de cet enfant. Alors, il y a dans les 400 coups, effectivement, une dimension autobiographique de liée à la vie de François Truffaut, qui part dans ce film de sa propre enfance, hein, celle d'un enfant dont, non désiré, hein, d'où que Antoine Doinel soit un peu le double de François Truffaut, et vous savez qu'il y a toute une série de films autour de Doinel. La mère de Truffaut était fille mère, donc c'était une position difficile dans le milieu catholique dont elle était issue. Et Truffaut, François Truffaut, porte le nom de l'homme qui l'a reconnu, puisque de Truffaut n'a jamais connu, n'a jamais vécu avec son père biologique. Hein. Et donc il a vécu avec son beau-père. Et François Truffaut a eu un demi-frère qui est mort très très jeune, hein, à l'âge de 2 mois. Et du coup, il s'est toujours senti rejeté, hein, à cause de la mort de ce demi-frère. Et il a donc été placé en nourrice assez rapidement et la plupart du temps élevé par ses grands-parents. Et à 7 ans, François Truffaut, passionné de lecture et déjà de cinéma, hein, paraît-il qu'il faisait des dossiers cinématographiques, il en avait plus de 300 chez lui, il vole des photos de stars de cinéma dans les films, un peu comme on verra Doinel le faire dans les 400 coups. Et puis la grand-mère de Truffaut meurt en 42 et Truffaut retourne alors à l'appartement paternel. À 12 ans, plusieurs fois, il dort encore dans le couloir, hein, comme Doinel dormira dans le couloir chez sa mère et son beau-père. Il a donc toujours pas de chambre, Truffaut, à l'âge de 12 ans. Et il découvre un peu par hasard que son père, Truffaut, n'est pas son père biologique. Et donc il commence à fuguer et à se réfugier dans les cinémas. Et à partir de 1945, il a donc arrêté sa scolarité, il fait des petits boulots, il fréquente des ciné-clubs et il rencontre le grand critique de cinéma André Bazin, dont il dit de lui et de sa femme Jeannine, hein, Jeannine Bazin, qui l'ont adopté au sens non pas juridique, mais en tout cas qui l'ont accueilli chez eux. Ils l'ont accueilli au moment où Truffaut dit qu'il se trouvait en pleine détresse. Et Jeannine Bazin et André Bazin ont ainsi mis fin à une période la plus lamentable de sa vie, une période qui en fait, pour la résumer, s'est terminée par un moment de désertion, hein, quand suite à un chagrin amoureux en 1951, il décide de s'engager dans l'armée pour s'y faire tuer, pour y mourir. Bon, une espèce de dépression. Et lors d'une permission qu'il prolonge à Paris, il se fait donc arrêté et il fait de la prison. Et c'est donc André Bazin qui va faire en sorte qu'il soit réformé et qu'il l'accueille chez lui. Il y a donc, dans ces quelques moments de la biographie de François Truffaut, des échos avec Doinel et les 400 coups. Alors, c'est l'histoire de ce film, donc, c'est l'enfance difficile d'Antoine Doinel. Hein. Bon, au départ, les 400 coups, ça devait être un court-métrage, hein, qui devait s'appeler Antoine prend la fuite. Et donc, Doinel est tiraillé, hein, entre une mère qui est peu aimante et un beau-père qui est difficile. Il est perdu, c'est Antoine Doinel, hein, c'est un enfant perdu, mais qui a pour passion la littérature, tout comme Truffaut aura cette passion. Et notamment un livre d'Honoré de Balzac qui s'appelle « La recherche de l'absolu », hein, que Doinel plagie, hein, au cours d'un devoir à l'école. Pour lui rendre hommage, non pas pour plagier vraiment, mais parce qu'il veut rendre hommage à Balzac, dont il adore le film. Et puis, voilà, il a un zéro par le prof qui le note et qui ne voit pas dans ce plagiat une admiration, mais une simple tricherie. Donc, Doinel fuit l'école et l'instituteur injuste, il va au cinéma, il se réfugie dans le cinéma. Finalement, les 400 coups, c'est non seulement les bêtises que Doinel peut faire, hein, bon, parce qu'il est perdu, c'est un enfant perdu, et puis l'enfance, c'est aussi l'image de la fiction au cinéma, hein, je raconte des histoires, hein, qu'elles soient vraies ou fausses, je les raconte, c'est le fameux mensonge de la mère morte, hein, qui vaut à Doinel une gifle, et qui le fait, par son beau-père, et qui le fait fuir. Et puis voilà, donc les 400 coups, c'est c'est les bêtises, c'est le vol de la machine à écrire, hein, voilà, qui fait que la fin du film, petit à petit, Doinel est piégé par l'enfermement, par la prison, puisque ses parents ne veulent plus de lui et qu'il est placé en éducation surveillée. Voilà, c'est-à-dire des établissements qui prennent en charge les mineurs de justice. Il y a donc, voilà, dans les 400 coups, une liaison, hein, de François Truffaut à Doinel. Et on peut y voir aussi voilà, une espèce de dommage au vagabond chez Charlie Chaplin. Et je vous lis justement à ce propos ce que dit François Truffaut de Charlie Chaplin, dont vous savez qu'il était, Truffaut était un grand admirateur de Chaplin, et comme il était critique, il a beaucoup, beaucoup écrit sur Chaplin. Et voilà ce que je vous lis, qui est tiré des Films de ma vie, hein, de François Truffaut, un livre absolument magnifique. Charlie Chaplin, abandonné par son père alcoolique, a vécu ses premières années dans l'angoisse de voir sa mère emmenée à l'asile, puis, lorsqu'on l'y emmenait, dans la terreur de se faire rafler par la police. C'est un petit clochard de 9 ans qui rasait les murs de Kennington Road, vivant ainsi, qu'il l'écrit dans ses mémoires, dans les couches inférieures de la société. Si je reviens là-dessus, qui a été si souvent décrit et commenté, à tel point peut-être qu'on a perdu de vue la crudité, c'est que l'on doit voir ce qu'il y a d'explosif dans la misère lorsqu'elle est totale. Quand Chaplin va entrer à la Keystone pour y tourner des films de poursuite, il courra plus vite et plus loin que ses collègues du music hall, car s'il n'est pas le seul cinéaste à avoir décrit la fin, il est le seul à l'avoir connue. Et c'est ce que ressentiront les spectateurs du monde entier lorsque les bobines vont commencer à circuler à partir de 1914. Je ne suis pas éloigné de penser que Chaplin, dont la mère est morte folle, a frôlé lui-même l'aliénation et qu'il ne s'est tiré d'affaire que grâce au don de mime qu'il tenait justement de sa mère. Depuis quelques années, on étudie plus sérieusement le cas des enfants qui ont grandi dans l'isolement, dans la détresse morale, physique ou matérielle, et les spécialistes décrivent l'autisme comme un mécanisme de défense. Or, tout est mécanisme de défense dans les faits et gestes de Charlot. Lorsque Bazin explique que Charlot n'est pas antisocial mais asocial et qu'il aspire à entrer dans la société, il définit presque dans les mêmes termes que Kanner la différence entre le schizophrène et l'enfant autistique. Je cite Truffaut citant Kanner. Alors que le schizophrène essaie de résoudre son problème en quittant un monde dont il faisait partie, nos enfants arrivent progressivement au compromis qui consiste à tâter prudemment un monde auquel ils ont été étrangers dès le début. Doinel est donc dans la forme autistique, plus autistique que schizophrénique. Pour m'en tenir... Truffaut reprend la parole. Pour m'en tenir à un seul exemple de décalage, le mot décalage revient constamment sous la plume de Bazin, comme sous celle de Bruno Bettelheim lorsqu'il parle des enfants autistiques dans La forteresse vide, je rapprocherai deux citations à propos du rôle de l'objet. L'enfant autistique a moins peur des choses et agira peut-être sur elles, puisque ce sont les personnes et non les choses qui semblent menacer son existence. Cependant, l'utilisation qu'il fait des choses n'est pas celle pour laquelle elles furent conçues. Bruno Bettelheim. Citation d'André Bazin par Truffaut. Il semble que les objets n'acceptent d'aider Charlot qu'en marge du sens que la société leur avait assigné. Le plus bel exemple de ces décalages est la fameuse danse des petits pains où la complicité de l'objet éclate dans une chorégraphie gratuite. Donc il y a là, dans ces, et je crois qu'on peut généraliser ça à ces trois films sur l'enfance, le personnage de Charlot qui, en sous-bassement, est là, de Charlie Chaplin, la propre vie misérable, miséreuse de Charlie Chaplin, et que ce soit Doinel, que ce soit l'enfant sauvage, que ce soit le petit enfant maltraité de l'argent de poche, il y a là une espèce de liaison à partir... de Charlie Chaplin. Alors, effectivement, il y a ce choix de Jean-Pierre Léo pour raconter ce qui est une géographie de l'enfance, hein, une géographie de l'enfance à travers Paris, hein, Antoine Doinel qui fuit dans les rues de Paris, Paris étant peut-être la géographie du cinéma, d'une liberté de la culture, opposée à l'enfermement de l'école et de la famille. Je vous lis François Truffaut décrivant comment il a rencontré, comment il a sélectionné Jean-Pierre Léo et les influences que Truffaut a, décrit par rapport à son film Les influences cinématographiques. J'avais d'abord reçu des photos d'identité sur lesquelles il avait les cheveux très longs et très blonds. Je me souviens avoir noté sur une feuille « intéressant », mais le visage trop féminin. Et puis quand il est arrivé, il avait les cheveux presque rasés. Il était le contraire. Tout d'un coup, il m'a semblé trop brutal. Mais dès les premiers essais, dès qu'il parlait devant la caméra, c'était le plus intéressant de tous. Il donnait une grande impression d'intensité, de nervosité. Il faisait le type décontracté, mais il ne l'était pas du tout. Il y avait chez lui une violence et un grand désir d'avoir le rôle par rapport aux autres enfants, dont c'était plus la mère qui avait envie pour eux, ou alors qui venait par curiosité. Lui ne venait pas par curiosité, c'était des espèces d'éliminatoires, car je faisais revenir les enfants tous les jeudis. Au deuxième jeudi, il s'est imposé, c'était évident que ce serait lui. Mais il y avait des décalages avec le scénario, il était plus agressif, moins soumis comme personnage. Le mien était plutôt humble, et faisant vraiment ses coups en douce. Lui était plus arrogant, plus effronté même. Je voyais donc le personnage se décaler légèrement, mais il y apportait une telle vie que ça me plaisait et que je l'acceptais, avec cette idée que j'avais peut-être appris à travers les films de Renoir que l'acteur est plus important que le personnage. Et Truffaut, on lui demande quelle a été l'influence, quelle influence essentielle des 400 coups. Il dit, il n'y aurait peut-être pas eu les 400 coups sans Rossellini, qui était très anti-hollywoodien, très anti-américain. Il était pour lui une approche presque documentaire des choses, une approche très réaliste. J'ai travaillé quelques années avec lui, même sur des scénarios qui ne se sont pas tournés. Si après toute cette période où je m'étais détaché du cinéma français, si donc j'ai été amené à faire un film aussi français que Les 400 coups, c'est probablement parce que l'influence de Rossellini a été la plus forte. C'est ce qui m'a donné l'élan pour faire un film où finalement il se passe très peu de choses. Il y a très peu d'événements dans Les 400 coups. À part le vol de la machine à écrire et la séquence où Doinel dit que sa mère est morte alors qu'elle ne l'est pas, le reste, ce sont des scènes au bord du documentaire. Je dis souvent, et c'est quelquefois mal compris d'ailleurs, que j'ai une haine du documentaire. Quand je dis cela, ça veut dire que ce qui m'a amené au cinéma, c'est la fiction, et que je ne désire pas changer mon point de vue là-dessus. Quand j'ai fait « L'enfant sauvage », c'est aussi avec la haine du documentaire. Et pourtant, la tentation est quelquefois de faire des films avec le moindre rebondissement possible, mais de faire des films prenants. Et à ce moment-là, la fiction n'est pas dans l'invention de scènes extravagantes, elle est dans la façon d'agencer les choses, de présenter le récit comme une narration, un conte, et non pas comme la relation neutre d'une chose. Donc cette haine du documentaire qui me guidait à l'époque et encore maintenant faisait quand même que je voulais faire un film qui ressemble à un documentaire sans en être un. Voilà, je clôt un petit peu ce petit moment des 400 coups et sur sur cette idée que il y a du documentaire dans ce cinéma de l'enfance avec ce premier film Les 400 coups, mais un documentaire qui est toujours fictionné, qui est toujours invention, qui n'est pas copie et qui produit, alors le terme ne plaisait pas toujours à Truffaut, mais une forme de poétique cinématographique à l'image même de l'enfance. Je vais vous faire écouter désormais pour le deuxième film, L'enfant sauvage, une interview de François Truffaut. Et c'est très intéressant pour nous, où il s'explique sur ce qu'il a voulu faire dans L'enfant sauvage.
L'histoire de Itard et L'enfant sauvage,
oui,
est presque une synthèse de votre feeling vis-à-vis de l'enfance.
Oui, certainement. Certainement, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, énormément. C'est un film d'ailleurs, le sujet n'en a pas toujours été compris, parce qu'on a pensé qu'il y avait dans les relations de Dr Itard avec Victor un côté dressage qui était antipathique, surtout à une époque où on dit qu'il faudrait que les enfants soient libres, n'aient pas besoin d'être éduqués, d'être enseignés. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais même en divorce avec mon époque, parce que on a effectivement aujourd'hui on a la contestation étudiante, on a des garçons qui donc ont été, comment dirais-je, gavés d'amour, gavés de protection, et gavés qui ont besoin d'indépendance et qui ont besoin de refuser toutes les structures de la société. Et je me suis rendu compte que j'allais à à rebrousse-poil de tout ça avec l'enfant sauvage, mais que la raison en était simplement que ma biographie est différente des autres. Moi, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'affection, j'ai manqué d'attention, mais aussi de structure. Donc l'idée de la sévérité d'Itard n'était pas pour me déplaire, l'idée de l'éducation n'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, on retrouve toujours ça dans mes films, l'importance des livres, l'importance de la culture, elle est là aussi dans Fahrenheit. Donc, c'est plutôt, disons qu'à une époque où les étudiants, à la limite, quitteraient les collèges pour devenir des hippies, j'avais avec l'enfant sauvage l'histoire d'un petit hippie qui veut entrer au collège, vous voyez, presque, voilà, à la limite. Ça montre, parce que c'était un autre cheminement.
Victor me réclame à nouveau un bol de lait. Victor, demande-moi ton lait. Lait.
L'enfant a besoin d'amour, mais il a besoin aussi d'attention et de régularité. Il a besoin d'un cadre. Je crois que c'est important. Et Itard donne ça, avec des choses exagérées, évidemment. Mais enfin, la psychanalyse n'existait pas. Il n'avait pas lu Freud. Il pouvait faire des erreurs. Il avait le droit à l'erreur. Bien sûr que ce n'était pas la peine d'essayer d'apprendre à lire et écrire au sauvage. Mais ça, il ne le savait pas. Pour résumer ce thème, disons que c'est l'idée de sortir de la société. Vous voyez, c'est l'idée qu'aujourd'hui, le grand mouvement mondial, c'est un mouvement de sortie de la société, de la part de gens qui étaient trop bien insérés dans la société. Et moi, j'ai en général des personnages inverses, qui sont plus proches d'ailleurs de celui de Charlot, de Chaplin, toute proportion gardée, qui sont des personnages que la société avait refusés au départ et qui donc tendent à y entrer. Ils voudraient se faire accepter. On s'occupe plus des enfants qu'autrefois, mais on s'en occupe matériellement, on s'en occupe sur certaines choses, pas sur d'autres. Et on s'en occupe pas sur le plan de l'évolution de son esprit. Jamais, à aucune époque, les enfants n'ont été aussi informés, aussi bien informés. Autrefois, le savoir leur venait des adultes. Aujourd'hui, ils apprennent les choses en même temps que les adultes. Je trouve ça terriblement important, l'idée que grâce à la télévision, les enfants apprennent les choses en même temps. Donc ça, il devrait s'en suivre un dialogue, aussitôt, enfant-adulte, et ce dialogue n'a pas lieu. Donc les enfants sont en décalage, ils sont en décalage dans la société d'aujourd'hui, parce que d'un côté, c'est très bien, on a prolongé les études, on a rendu les études obligatoires jusqu'à 16 ans, et en réalité, les enfants pourraient entrer dans la vie beaucoup plus tôt aujourd'hui. Mais alors, ils arrivent à quelquefois être très cultivés et complètement désarmés pour entrer dans la vie pratique, avec une peur énorme d'y entrer. Je proposerais, moi, même en laissant les études longtemps, de les faire entrer quand même dans la vie plus tôt, c'est-à-dire de favoriser, un peu comme en Amérique, le travail, comme d'aller porter les journaux, de faire partie de la vie, d'entrer dans la vie pratique plutôt, de façon à ne pas avoir aussi peur de la vie.
Étonnant, hein, ces derniers propos de François Truffaut, faire entrer l'enfant dans la vie de manière une vie beaucoup plus pratique, hein, plutôt pour pas qu'il ait peur de l'existence, pour pas qu'il ait peur de la vie. Alors l'enfant sauvage, bon, on se rappelle cette histoire, hein, c'est un enfant capturé comme un animal vers 1800. Bon, c'est tiré du manuscrit d'Itard, hein, qui on peut se procurer aujourd'hui. C'est le livre Les Enfants Sauvages, il y a le manuscrit qu'on peut lire. Donc vers 1800, un enfant est capturé dans l'Aveyron, le film de Truffaut repart de là, il est capturé par des paysans. C'est d'abord une bête de foire, et puis que l'on apporte à Itard. Voilà, tous les plans de Truffaut au départ, c'est des examens, hein, de cet enfant qui n'est pas encore enfant, qui est un animal. Hein, on se demande si visiblement il est sourd, il est muet, alors est-ce qu'il est attardé? Les scientifiques disent qu'il est attardé, qu'il n'a pas toute sa tête, qu'il n'a pas toute son intelligence, alors que Itard se rend compte assez rapidement que ce sourd-muet, c'est les conséquences de l'absence de contact avec les hommes. Bon. Et Itard lui apprend, alors effectivement le dresse, hein, et on peut bien dire ça, il y a des scènes de dressage, mais finalement lui apprend la vie civilisée et lui enseigne le langage. Autrement dit, il l'humanise, il le fait entrer dans la culture, avec cette idée-là que on ne naît pas homme, on le devient. Bon. Itard devient un petit peu cet éducateur, certes sévère, hein, mais Truffaut s'en explique en dédouanant Itard, hein, il ne s'agit pas de le juger, en le dédouanant de ce dressage, parce que voilà, il n'avait pas tous les outils scientifiques de cette époque. Donc Victor passe par des difficiles épreuves qui sont les épreuves finalement de l'entrée dans l'humanité. Bon. Et Itard bon, finalement, aide cet enfant à quitter l'animalité dans laquelle il est né et l'emmène sur les voies de la culture, de l'éducation, de l'instruction. Et on vient d'entendre à l'instant François Truffaut dire que pour lui, c'est justement la culture qui l'a sauvé. Finalement, lui, il était ce petit sauvageon dans le Paris de la Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui a fait qu'il est devenu le cinéaste qu'il est, c'est bien la culture. Bon, il y a donc là encore l'effet d'un double à travers Victor. Alors, ce qui est intéressant dans L'Enfant sauvage, et là je me réfère encore au magazine Cinématographe consacré à François Truffaut, hein, voilà, qui est désormais plus trouvable, mais dans lequel il y a un petit encart sur L'Enfant sauvage, et il fait vraiment une espèce de parallèle entre la manière dont Truffaut filme, hein, dans L'Enfant sauvage, Truffaut a tout fait pour ne pas filmer le ciel. Hein. Les plans sont toujours, la caméra est toujours en haut et filme Victor, voilà, à terre, sans ciel, sans espoir. Hein. Donc il y a comme ça, à travers la caméra, le fait que Victor est enfermé dans sa sauvagerie et que petit à petit il peut y avoir un éclaircissement et que petit à petit on peut rendre l'espace plus ouvert, hein. Donc il y a là à travers la caméra même de Truffaut, à travers la présence l'absence plutôt de ciel, l'image même de l'enfermement de l'enfant qui, même si il est porté à être éduqué, à être humanisé par Itard, n'en reste pas moins enfermé. Je cite cet extrait du Cinématographe. Exemplaire par son temps, L'Enfant sauvage l'est aussi par sa fin. Truffaut, là encore, refuse de finir au moment le plus émouvant. L'enfant s'est enfui et le professeur a perdu tout espoir de le voir revenir. Terminer là, c'était accepter de donner un sens évident à son film, victoire de la nature, etc. Truffaut, comme souvent, renonce à une fin possible, non sans l'avoir préparée par un crescendo dramatique. Nette accélération du découpage, séquence de la liste d'objets, scène violente, l'injustice volontaire pour observer les réactions de l'enfant. Mais parvenu à cet apogée, il redescend en roue libre. L'enfant revient, prend la main de la gouvernante, Madame Guérin, et la passe sur sa propre joue. Tantôt nous reprendrons les exercices, lâche son tuteur. Le film se termine quand tout, pour l'enfant, recommence. Dernier extrait du film L'argent de poche. Nous allons écouter à l'instant.
Vous pensez tous à la même chose, vous pensez tous à Julien Leclou. Vous avez vu les journaux, vos parents m'ont parlé chez vous, entre eux ou avec vous. Maintenant vous allez tous partir en vacances. Et moi aussi, je voudrais vous parler de Julien. Alors, à propos de Julien, je ne sais pas grand-chose de plus que vous, mais je voudrais vous donner mon point de vue. D'abord, d'après ce qu'on m'a dit, Julien sera pris en charge par l'assistance publique et il va être placé dans une famille. Quel que soit l'endroit où il sera, il sera évidemment mieux qu'avec sa mère et sa grand-mère où il était maltraité. Pour dire les choses exactement, où il était battu. Sa mère sera déchue de ses droits maternels, ce qui signifie qu'elle n'aura plus le droit de s'occuper de lui. Je pense que pour Julien, la vraie liberté va commencer vers 15 ou 16 ans, lorsqu'il se sentira libre d'aller et venir. Devant une histoire aussi terrible que celle de Julien, la première réaction de chacun de nous est de se comparer à lui. J'ai eu une enfance pénible, enfin beaucoup moins tragique que celle de Julien, mais pénible. Et je me souviens que j'étais très impatient de devenir adulte parce que je sentais que les adultes ont tous les droits, qu'ils peuvent diriger leur vie comme ils l'entendent. Un adulte malheureux peut recommencer sa vie ailleurs, peut repartir à zéro. Un enfant malheureux ne peut pas avoir cette pensée. Il sent qu'il est malheureux, mais il ne peut même pas mettre un nom sur son malheur. Et surtout, nous savons qu'à l'intérieur de lui-même, il ne peut même pas remettre en question les parents ou les adultes qu'ils font souffrir. Un enfant malheureux, un enfant martyr, se sent toujours coupable. Et c'est cela qui est abominable. Parmi toutes les injustices qui existent dans le monde, celles qui frappent les enfants sont les plus injustes, les plus ignobles. plus odieuse. Le monde n'est pas juste et ne le sera jamais. Mais il faut lutter pour qu'il y ait davantage de justice. Il le faut. On doit le faire. Les choses bougent, mais pas assez vite. Elles s'améliorent, mais pas assez vite. Les politiciens, les gens qui nous gouvernent, commencent toujours leur discours en disant « Le gouvernement ne cédera pas à la menace. » Mais en réalité, c'est le contraire. Il cède toujours à la menace. Et les améliorations ne sont obtenues que parce qu'on les réclame fortement. Depuis quelques années, les adultes ont compris et ils obtiennent dans la rue ce qu'on leur refuse dans les bureaux. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que les adultes, lorsqu'ils le veulent vraiment, peuvent améliorer leur vie, peuvent améliorer leur sort. Mais dans toutes ces luttes, les enfants sont oubliés. Il n'existe aucun parti politique qui s'occupe réellement des enfants comme Julien ou des enfants comme vous. Et il y a une raison à cela. C'est que les enfants ne sont pas des électeurs. Si on donnait le droit de vote aux enfants, vous pourriez réclamer davantage de crèches, davantage d'assistantes sociales, davantage de n'importe quoi, et vous l'obtiendriez, car les députés voudraient avoir vos voix. Par exemple, vous pourriez obtenir le droit d'arriver une heure plus tard à l'école en hiver, au lieu de venir en courant dans la nuit. Je voulais vous dire aussi, c'est parce que je garde un mauvais souvenir de ma jeunesse et que je n'aime pas la façon dont on s'occupe des enfants que j'ai choisi, moi, de faire le métier que je fais, être instituteur. La vie n'est pas facile, elle est dure. Et il est important que vous appreniez à vous endurcir pour pouvoir l'affronter. Attention, je ne dis pas à vous durcir, mais à vous endurcir. Par une sorte de balance bizarre, ceux qui ont eu une jeunesse difficile sont souvent mieux armés pour affronter la vie adulte que ceux qui ont été très protégés ou très aimés. C'est une sorte de loi de compensation. La vie est dure, mais elle est belle, puisqu'on y tient tellement. Il suffit qu'on soit obligé de rester au lit à cause d'une grippe ou d'une jambe cassée pour s'apercevoir qu'on a envie d'être dehors, de se balader, pour s'apercevoir qu'on aime vraiment beaucoup la vie. Bon, maintenant vous allez tous partir en vacances. Vous allez découvrir des endroits nouveaux, des gens nouveaux. Et puis à la rentrée, vous passerez tous dans la classe supérieure. Je vous signale que les classes seront mixtes l'an prochain. Et puis vous verrez, le temps passe très vite. Et un jour, vous aurez aussi des enfants. Alors j'espère que vous les aimerez et qu'ils vous aimeront. À vrai dire, ils vous aimeront si vous les aimez. Et si vous ne les aimez pas, ils reporteront leur amour, leur affection, leur tendresse sur d'autres gens ou sur quelque chose d'autre. Parce que la vie est ainsi faite qu'on ne peut pas se passer d'aimer et d'être aimé. Bon, les enfants, l'école est terminée et je vous souhaite de bonnes vacances.
Voilà, on vient d'entendre le discours final de l'instituteur, joué par Jean-François Stévenin, dans L'argent de poche, 1976, un film en couleur de François Truffaut, qui est je voulais vous terminer ce moment de l'enfance chez François Truffaut par ce discours d'un adulte, qui est à l'écoute de cet enfant martyr, Julien Leclou. Hein. Jean-François Stévenin joue l'instituteur. Qui s'aperçoit que Julien est battu par sa mère et sa grand-mère. C'est un film, L'argent de poche, qu'il faut absolument revoir. François Truffaut était très intéressé par la maltraitance de l'enfant. Il découpait beaucoup d'articles de journaux qui parlaient de maltraitance. C'est un sujet qui le faisait pleurer, hein, qui l'attristait beaucoup. Et c'était pas simple pour lui de tourner des films sur l'enfance. Il se demandait souvent pourquoi je tourne des films sur des sujets qui me font tant de mal. Au moins on termine sur une note, puisque François Truffaut n'était pas un cinéaste pessimiste ni même optimiste, mais c'est quelqu'un qui essaie d'ouvrir, et c'est cet adulte joué par Jean-François Stévenin qui ouvre, hein, la dernière classe qu'il donne, il ouvre sur Julien Leclou et il fait un discours sur l'enfance, hein, pour donner un droit de vote à l'enfant et qu'il soit enfin pleinement inscrit dans la société. Chère Isabelle, j'ai débordé, je te laisse la place pour la dimension de l'amour dans l'œuvre de François Truffaut.
Merci, chère Nathalie. Alors, comme nous venons de l'entendre dans l'extrait que Nathalie Perrin vous a passé de L'argent de poche, le discours de l'instituteur, la vie est faite ainsi qu'on ne peut pas se passer d'amour. Oui, l'amour, Nathalie, il est au cœur des films de François Truffaut. François Truffaut qui, comme le dit le Zarathoustra de Nietzsche, écrit, j'écris avec mon sang, écrit ses films avec son sang, avec ses larmes, avec ses tripes, hein, et tout ce qui vient à la lumière de l'image, c'est une réflexion sur l'amour. Mais pas une réflexion abstraite, pas une réflexion déconnectée du réel, mais justement prise dans la chair, prise dans l'incarnation, l'incarnation d'un cinéaste qui s'engage jusqu'au bout, incarnation de personnages, d'acteurs, qui eux aussi s'engagent jusqu'au bout, voire même jusqu'à la folie, comme nous le verrons par exemple avec Muriel dans Les Deux Anglaises et le Continent, Adèle H dans L'Histoire d'Adèle H, ou encore Mathilde dans La Femme d'à côté. Alors oui, on fait toujours des films qui tourmentent, qui hantent, disait François Truffaut, qui comparait ses films à des trains et les hommes à des enfants solitaires et sauvages. Eh bien, au fond, c'est des films qui mettent en scène l'amour avec toujours un soubassement mélancolique. Donc, enfin, Nathalie Perra vous l'a dit, François Truffaut, c'est un peu un cinéaste qu'on a eu tendance à classer dans le cinéma bourgeois, le cinéma un peu académique. Or, en fait, lui-même se disait plutôt clandestin, marginal, et ne voulait pas habiter ces étiquettes ou ces tiroirs. Au fond, François Truffaut, c'est un homme qui fait partie de la société, mais qui en même temps pris dans l'étrangeté, dans les marges. Et cette situation assez ambiguë du cinéaste se retrouve dans sa manière de traiter l'amour et dans ses personnages qui, derrière la réserve, la violence très retenue, déchaînent des passions secrètes, une sauvagerie profonde. Et c'est François Truffaut qui se fait le topographe de ces profondeurs où règnent les transgressions, où règnent les violences. Puisque finalement, ce qui l'intéresse, lui, dans la passion, l'amour, c'est ce côté non pas général, abstrait, on ne va pas parler d'amour en général, mais on va parler de situations tout à fait étonnantes, tout à fait singulières dans l'amour, des situations où le spectateur est comme bousculé. C'est toujours des histoires un peu qui dérangent, des histoires qui étonnent par leur singularité. Et dans cette singularité, l'amour chez François Truffaut, il s'ouvre comme une blessure, comme une question qui n'en a jamais fini de nous questionner, comme cette blessure qui n'en a jamais fini de saigner. Et cette question, cette encre qui coule de la question, ces images qui viennent de la question et ce sang qui coule de la plaie, c'est le fond de l'écriture de François Truffaut, lui qui aimait les femmes, lui qui aimait les livres, la littérature, grand cinéphile aussi, hein, il adorait Hitchcock, bon, Nathalie vous l'a rappelé, Rossellini, mais aussi Chaplin et Renoir. Alors tous ces cinéastes qui sont un peu sont ses référents font de François Truffaut certes l'héritier d'une tradition, mais aussi un héritier tout à fait original, puisqu'il aura su synthétiser avec génie cette histoire cinématographique. Alors, au fond, on peut se dire que si l'amour est au cœur des films de François Truffaut, il est aussi ce qu'il décrit comme toujours brûlant, toujours incandescent. C'est un amour qui, dans la vie, n'arrive pas à s'achever, n'arrive pas à perdurer, et qui est toujours en décalage. Hein, on se souvient de cette voix off dans La Femme d'à côté, ni avec toi, ni sans toi. Eh bien, cette difficulté de ressentir l'amour au même moment pour les deux amants, eh bien, il sera possible d'en trouver une harmonie, d'en trouver une écriture continue, une narration dans les films, comme le dit ce premier extrait de La Nuit américaine, où le cinéma vient rétablir l'harmonie que la vie ne peut pas réaliser. Le premier extrait, La Nuit américaine.
Nous avons été coupés avec Francfort.
Oui. Ah, Joël, tu as vu Alphonse?
Tu sais, il ne veut pas sortir. Il est enfermé dans sa chambre. Il ne veut rien entendre. Non, même pas.
De toute façon, Séverine est...
Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel.
Écoute, Alphonse, viens. Tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir, hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi.
Alors voilà, cet extrait en dit long, hein, puisque des gens comme toi, des gens comme moi, dit François Truffaut lui-même, qui joue hein, son propre rôle quasi dans le film, on est fait pour être heureux dans le travail. Et l'amour, dans ce soubassement mélancolique, il a quelque chose chez François Truffaut qui, finalement, s'il est le moteur de l'existence, est aussi la trame de l'écriture de ces films. Un amour toujours, nous l'avons dit, sous-tendu derrière des apparences de réserve, par une violence, par une passion, par une sauvagerie. Et cette sauvagerie, on la retrouve à travers des personnages, comme celui de Julie Collère, jouée par Jeanne Moreau, dans La mariée était en noir, en 1967. Cette Julie Collère, hein, qui est cette femme qui perd son mari, le jour de son mariage, suite à une erreur de tir provoquée par le jeu imbécile de cinq hommes célibataires, joués par Claude Rich, Michel Bouquet, Michael Lonsdale, Charles Denner et Daniel Boulanger, et ensuite qui va organiser de manière très logique hein, sa vengeance, et où la passion dans ce film sera toujours un sentiment lié à quelque chose de douloureux finalement, hein, et qui atteindra la part intérieure tourmentée et vulnérable des personnages. Il y a dans le nom même de colère, une colère qui remonte hein, de la part de Julie et qui nous fait penser au personnage de Charlie dans Tiré sur le pianiste, film de 60, hein, 1960, où tous les deux ont une revanche à prendre sur la vie, justement, qui leur a dérobé ce qu'ils avaient du plus cher. On retrouve également cette passion hein, en réserve, cette passion sous-tendue à travers ces personnages hein, qui sont comme des volcans endormis, mais toujours prêts à s'éteindre, un peu à l'image des blondes volcaniques dans la filmographie d'Hitchcock, à travers, bien sûr, des personnages comme Catherine, de nouveau jouée par Jeanne Moreau dans Jules et Jim, mais aussi, bien sûr, Adèle, Adèle H., jouée par Isabelle Adjani, cet amour hein, qu'elle ressent, qui est à sens unique, sans réciprocité, qui devient obsessionnel et qui va l'enfermer dans la folie, dans l'aliénation de son propre sentiment, et qui la fera aussi passer dans une autre vie dans la vie, puisque déjà le langage est double pour Adèle H. Elle n'arrête pas de mentir, hein. Elle ment sur son identité, sur qui elle est, elle se fait passer pour d'autres personnages, Madame Pinson, Miss Louis, ou même parfois sa sœur morte, Léopoldine, parfois même se déguise en homme, et se faufile dans les lieux. Elle est toujours en décalage, là aussi, toujours en disharmonie. Et ça révèle des relations, bien sûr, troubles avec elle-même, avec les autres, avec la sœur disparue et le père, mais également nous fait ressentir cette recherche d'absolu et ce décalage entre le réel et l'imaginaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ce décalage entre le réel et l'imaginaire, porté par l'écriture cinématographique, on le retrouve dans des livres comme Les lettres d'une religieuse portugaise, où la religieuse essaye de vivre un amour qu'elle n'arrive pas à incarner, ou encore dans le film de Max Ophuls, hein, Lettre d'une inconnue, ou celui Madame II, hein, qui ont beaucoup inspiré François Truffaut, et également dans ces personnages où toujours la mort et l'amour seront liés. Cette mort et cet amour dans La femme d'à côté, le film de 1980 qui relie Mathilde et Bernard, d'un amour passionnel qui va les faire se retrouver, un amour qui finalement fera peu à peu basculer dans la folie, hein, le personnage de Mathilde, un amour qui la fera s'effondrer, puisque à la fin du film, vous connaissez cette fameuse scène, elle se tue et elle tue en même temps son amant, et puis bien sûr ce mystérieux film tout à fait intéressant de 1978, La Chambre verte, avec Nathalie Baye, hein, et Daven, son héros endeuillé, son héros qui, tel un Orphée, veut franchir le seuil de l'autre monde pour retrouver celle qu'il a perdue, qui appartient même déjà à l'autre monde avec son corps, son esprit, et qui nous fait penser au comte d'Atoll dans Vera de Villiers de l'Isle-Adam, ou encore qui est assez proche de Scotty dans Sueur froide, qui tombe amoureux de cette blonde volcanique, hein, voilà, Kim Novak, qui a deux personnalités, la femme jouée et la femme véritable, au fond, et qui, finalement, est assez semblable au personnage de Daven par sa solitude, sa discrétion. Il se confie pas, ce personnage, puis il est en proie à une idée fixe, hein. Comme Mathilde, comme Muriel, comme Adèle H, ce Daven qui a quelque chose aussi très proustien, puisqu'il est à la recherche d'un temps perdu. Il rassemble, comme le fait finalement l'écriture cinématographique, des fragments, des morceaux dans l'unité qu'il cherche à harmoniser. Ce rassemblement de souvenirs, c'est celui d'une femme aimée, c'est celui d'une mère perdue, c'est celui d'une unité impossible dans la vie qu'on peut retrouver avec l'art, qu'on peut retrouver avec le septième art. Et finalement, on peut dire que le cinéma, peut-être ce culte, hein, chez François Truffaut, rendu aux morts. Un cinéma qui embaume les morts, qui les fait revivre, au fond, un peu, hein, qui garde des traces, comme on garde des photos, des souvenirs, qui les collectionne aussi, et qui porte en lui, mystérieusement, à travers pourtant toute cette incarnation des films de Truffaut, la main, le cou des femmes, leur nuque, hein, leurs jambes surtout, une idéalisation de la femme en statue, une statue érigée par Daven, hein, qui, au fond, fige certains personnages dans l'interdit de tout échange, de tout contact, mystérieusement, puisqu'ils sont en proie à l'idée fixe de la morte, hein, comme Scotty dans Sueur froide, ou comme encore le peintre dans le chef-d'œuvre achevé, hein, inachevé, pardon, de Balzac, avec la figure qui ne s'achève jamais, l'obsession terrible et sublime, mais aussi égoïste et cruelle de ces personnages qu'on retrouve également dans La peau douce avec le professeur Lachenay, et Nicole, jouée par Françoise d'Orléac, avec un film qui est une autopsie au scalpel du mariage bourgeois, mais un Lachenay qui est, dans son nom, d'ailleurs il y a le mot lâche, hein, incapable de réaliser cet amour charnel, qui est un peu un Icare en complet veston, hein, on va dire, c'est-à-dire en fait crispé sur sa chaise, un assire, un baldien, prisonnier de ses valeurs bourgeoises, du regard des autres, hein, s'il n'ose pas montrer sa maîtresse, il n'ose pas dire qu'il trompe sa femme, faut que tous les dehors soient bien lisses, hein, bien bourgeois, et qui en fait perdra les deux, hein, et qui sera d'ailleurs tué par sa propre femme, Franca, jouée par Nelly Benedetti. Et finalement, au fond, dans ce film, comme dans Adèle H, comme dans d'autres films de Truffaut, c'est ça là, le soubassement mélancolique, hein, ben, la vraie femme reste absente. Et c'est l'absence de tout bouquet, hein, c'est la figure absente, au fond, puisque Lachenay, il est toujours renvoyé à sa solitude et à son fétichisme. Lui n'arrive pas à réaliser l'harmonie. Que parviendront à réaliser d'autres personnages en ayant des vies, en construisant un foyer, en ayant des enfants, lui, il sera renvoyé à sa femme fragment, déréalisée, désincarnée. Au fond, il est plus malheureux, ce personnage de Lachenay dans La peau douce, que le personnage de Daven, puisque le personnage de Daven, il a avec sa chambre verte, hein, une œuvre, cette œuvre qui parvient en quelque sorte à le sauver. Et c'est là que je voudrais en venir, parce que finalement, le cinéma, c'est un peu ce cinéma qui parvient à réaliser une forme de résurrection des morts, on l'a dit, mais aussi une forme de résurrection de ce qui n'a pas été possible dans la vie. On peut le réaliser dans le cinéma, on peut le réaliser dans l'écriture, on peut, par le corps qu'on n'a pas eu dans la vie, retrouver un corps dans l'écriture, comme le montre Muriel en tenant son journal, en écrivant des lettres à Claude dans les deux Anglaises et le continent. Cette place de l'écriture, elle est très importante hein, dans les films de Truffaut, dans sa vie. C'est aussi une place qui revient toujours à la voix off, qui revient toujours à la lumière dans l'écran, et puis qui nous dit un peu également que l'amour n'en a jamais fini de s'écrire, l'amour n'en a jamais fini de se vivre, et on est assez proche au fond ici de ce que disait déjà Francis Wolff hein, dans son très beau livre « Il n'y a pas d'amour parfait ». Wolff qui lui aussi se concentre sur l'amour qui fait les histoires, les chagrins, les chansons, la passion érotique de Phèdre et le trio de Jules et Jim. Et c'est vrai que ce trio de Jules et Jim, il est très intéressant puisque c'est un film tout entier traversé par un élan impulsé par cette femme solaire, Catherine. Et si cet élan apparaît discontinu, fragmenté, interrompu de cassures avec le départ de Jim, l'échec des lettres croisées, et qui finit par se briser sur un point d'arrêt, le plongeon de la voiture dans la Seine, l'incinération des corps de Jim et de Catherine, il n'en reste pas moins un élan au fond, un fond vital, un souffle qui parcourt tout le film et lui confère sa force et son ambiguïté. Fond, Nathalie Perrin vous le rappelait, il n'y a pas de documentaire au sens strict hein, chez François Truffaut. Il y a toujours l'intérêt des vies personnelles, l'intérêt des vies singulières, cet intérêt le pousse à finalement se demander toujours ce qui fait le sel de l'existence, la force et l'intensité de nos vies. Si c'est l'amour, qu'est-ce qu'il a de particulier, cet amour? Qu'est-ce qui en fait quelque chose finalement de tout à fait étonnant? C'est qu'il est habité d'élan contradictoire, qu'il n'est jamais ni dans le pessimisme ni dans l'optimisme. Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas d'amour malheureux, il n'y a pas d'amour parfait, parce que on est finalement toujours dans des lignes qui se croisent, des fils continus et discontinus, des horizontales et des verticales qui se retrouvent dans les plans hein, de François Truffaut, dans ces moments heureux, hein, des fragments de joie, des étincelles, on pourrait dire, et puis dans ses retombées. Alors, Jules et Jim, c'est très intéressant pour ça. On en a un témoignage également dans une partie de campagne de Jean Renoir ou dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. Catherine, qui, dans Jules et Jim, est l'incarnation de cette figure ambivalente de l'amour, rassemble en elle un élan teinté de chute, une pesanteur mêlée de grâce, une légèreté, une gravité qui la font se mouvoir tout au long du film et qui, au fond, lui donne une incarnation de l'énergie. L'énergie de la vie qui est toujours finalement une énergie ambivalente, une opposition d'élan et d'arrêt, d'envol et de chute, qui n'est jamais figurée aussi explicitement que lors de la seconde arrivée de Jim au chalet, souvenez-vous, quand la comparaison aérienne, s'il en est, développée par la voix off, ils planèrent de nouveau très haut comme de grands oiseaux rapaces, la terre promise était en vue, et doublée en un plan pris d'hélicoptère par l'essor de la caméra au-dessus du chalet et des collines environnantes, avec la brutale retombée, un sec travelling inversé sur la pente accompagnant le couperet de la voix off, la terre promise recula d'un bond. Au fond, l'amour, il est toujours entre l'aveu et sa réalisation. L'amour dans la vie, il est instable. Eh bien, cette instabilité, on le retrouve avec cette force étrange qui traverse les films de Truffaut, François Truffaut, qui montre que finalement, ce qui nous fait souffrir dans l'amour, ces discordances, ces décalages, ces discontinuités, il est au fond toujours dans l'écriture de ces films la volonté de retrouver un fil, retrouver un lien entre tous ces fragments. Je vous rappelle la phrase de Muriel dans son journal, hein, « La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas ». Cette vie où finalement on n'arrive pas à retrouver ce lien, eh bien on en a un une idée dans ce que nous dit le personnage de Mathilde dans La Femme d'à côté. L'extrait de La Femme d'à côté qu'on va vous passer tout de suite. L'extrait de La Femme d'à côté où Mathilde revoit Bernard à l'hôpital et où elle lui dit que les chansons d'amour sont peut-être celles qui disent dans leur bêtise le plus vrai de l'amour.
Elle aimait cet homme passionnément. Et quand elle a appris qu'il devait partir pour la Nouvelle-Calédonie, elle a décidé en elle-même, j'attendrai le temps qu'il faudra. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère.
Hein, quoi ?
Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Bon, je reprends l'histoire de Madame Jouve. Quand elle a appris que son amant s'était marié en Nouvelle-Calédonie, elle a ouvert la fenêtre, c'était au 7e étage. Elle s'est jetée dans le vide. Bon, il se trouve qu'il y avait la verrière d'un restaurant, elle est passée au travers. C'était il y a 20 ans. Maintenant, elle marche avec une prothèse à la jambe droite. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
Je dis que cette dame a eu beaucoup de chance.
Alors vous aussi, vous appelez ça de la chance ?
Oui, c'est de la chance. Elle a eu la chance de vivre. Peut-être de pouvoir aimer un autre homme. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. On peut être aimé ou aimé plusieurs fois.
Pour être aimé, il faut être aimable. Moi, je suis bonne à rien. Bonne à rien. Il y a quelque chose en moi qui éloigne les gens.
Votre mari n'a pas l'air de s'éloigner de vous.
Mon mari m'aime. Mon mari est comme vous. Il fait très bien semblant d'écouter. Il m'a dit, tu devrais tourner la page. Il ne sait pas que cette page pèse 100 kilos. Non, personne ne s'intéresse à moi. Évidemment, vous êtes payé pour ça. Si tout ce qu'il y a dans ces livres est vrai, normalement, je devrais tomber amoureuse de vous en ce moment. Et pourtant, vous ne me faites aucun effet. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas dans le traitement. Tais-toi, ne parle pas. Tiens, au lieu de jouer à l'infirmier, si tu veux te rendre utile, change les piles de ma radio. Les piles neuves sont derrière toi, là-bas.
Madame Bouchard, je vous apporte vos médicaments.
Merci.
C'est formidable, ces petites pilules. Je t'assure. Tu vois, celle-là, elle te donne de l'appétit. Celle-là, elle te fait dormir 5 heures de suite. Et j'en ai même une qui tranguait. Si, si. T'en prends deux et tu éclates de rire toute seule dans ton lit. Tu devrais essayer.
Non, non, merci, ça va très bien.
Tu crois ça? Et comment va Madame Jouve?
Elle va bien, elle va très bien.
Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure, hein, à vous.
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste.
Je crois avoir retenu que vous souhaitiez...
Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde.
Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... Ne me quitte pas... Ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien, sans amour, on n'est rien du tout.
Bon, Mathilde. Il faut que j'y aille maintenant. J'en reviendrai.
Te fatigue pas, Bernard? Tu n'as plus besoin de revenir. Tu peux aller les voir et leur dire « Mission accomplie. La folle est en train de redevenir normale. »
Alors voilà pour cet extrait de La Femme d'à côté, l'amour et cette brûlure, l'amour et cette passion qui déchire le personnage en lui-même, les personnages entre eux. Cet amour qui est, au fond, dans tous les films de Truffaut, un amour entre vie et mort, un hymne à la vie et à la mort, une démonstration par la joie et la tristesse de l'impossibilité de toute combinaison amoureuse, au fond, même si elle dure, elle ne dure qu'un temps, parce que le couple est en proie à l'usure. Et c'est également à travers tous les films qu'on a cités de François Truffaut, un amour qui nous donne à penser toujours l'idée de l'avenir, toujours l'idée de la possibilité de l'enfant. C'est entre Jim et Catherine, le signe de la rupture, l'impossible enfant. Et c'est à cause de cet impossible enfant, d'ailleurs, que Catherine renvoie Jim. Et puis, c'est ce thème de l'enfant impossible qui traverse aussi les deux Anglaises et le continent, la sirène du Mississippi, Muriel qui veut un enfant de Claude et qui lui écrit une lettre bordée d'eau noire pour lui dire qu'elle s'est trompée. Et je n'étais pas enceinte, dit-elle, j'avais un extrême désir de l'être. Et dans la sirène du Mississippi, lors de la fameuse scène du coin du feu, où Marion évoque devant Louis un avortement forcé. Alors, on a également cet enfant présent dans la femme d'à côté, où Mathilde souffre de voir que Bernard a eu avec une autre l'enfant qu'il lui a refusé. Dans Jules et Jim, eh bien, le manque de l'enfant de Jim et Catherine se fait d'autant plus apparent que Catherine et Jules ont une fille, et vers laquelle d'ailleurs file la caméra lorsque Jim, à qui Jules lance qu'il a gagné la guerre, répond « Voyez-vous, Jules, je préférerais avoir gagné ceci », c'est-à-dire en montrant la petite fille, Sabine, interprétée par la jeune Sabine Hautepin, qui incarne, au fond, cette maternité réalisée, heureuse, de Catherine. « Ma fille, dit-elle dans le film, m'attirait comme un aimant. » on voit cette petite fille occuper également, hein, comme Nathalie Perrin vous l'a dit au sujet de l'enfance, la lumière de la caméra, cette lumière qui focalise également un avenir, un amour qui laisse quelque chose de lui après lui, un amour qui se perpétue dans l'enfant. On voit ici également toute la veine de Lévinas qui réfléchit sur l'amour et l'érotisme à travers la figure de l'enfant, le troisième, et qui donne à cette perspective de l'enfant dans le couple, la fécondité du couple, son énergie et sa beauté. Alors voilà, pour terminer, je vous passerai l'extrait final que j'avais prévu de vous passer, celui de Jules et Jim, la chanson connue, chantée par Catherine. Cette héroïne Catherine qui aime deux hommes qui parviendront malgré tout à rester amis sans cesser de l'aimer. Un de ces hommes, Jules, allemand, l'autre, Jim, français. Dans ce chalet où ils vivent ensemble, où se trouve aussi la petite fille, Sabine, dont je vous ai parlé. Eh bien, François Truffaut a dit de ce film qu'il voulait faire un film subversif avec une douceur totale, sans agresser le public. Un film où tristesse et joie, élan et chute étaient présents, au contraire de cette idée reçue de François Truffaut, cinéaste bourgeois, cinéaste dans les codes. On a dans ce film quelque chose d'assez original. Et on voit bien que tous les personnages de Truffaut sont enveloppés de tendresse et lumineux à l'écran. Je vous passe la chanson.
Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson,
ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va ?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.